Bonsoir à tous, bienvenue à la Fondation Gulbenkian. C'est Sara Guindani de la Fondation Maison de Sciences de l'Homme. Voilà, nous sommes réunis pour cette troisième conférence d'Edgar Morin, qui fait partie du cycle Pensée globale, organisé en collaboration entre la Fondation Maison de Sciences de l'Homme et la Fondation Gulbenkian. On est très heureux voilà, de pouvoir entendre Edgar Morin ce soir, qui nous parlera. Alors, un petit changement de programme nous parlera d'esthétique et art, donc contrairement à ce qui était prévu à l'avance, mais en travaillant sur les sujets, évidemment, le désir s'agrandit. Et donc, Edgar Morin, et nous, on est très d'accord, a souhaité poursuivre cette panoramique et cette promenade dans le monde de l'esthétique et de l'art. Donc, voilà, sans plus tarder, je cède la parole à Edgar Morin. Et on se retrouve plus tard pour le débat. Merci Edgar.
Merci Sarah, merci. Alors, Sarah Guindani vient de vous dire que je n'ai pas respecté le programme qui était affiché parce que je me suis laissé un peu emporter par le problème immense de l'esthétique et de l'art et que, du coup, j'ai éliminé les autres thèmes. Bah, et Je termine provisoirement, puisque je termine par la troisième et dernière conférence, mais le problème est loin d'être épuisé. Bon, je suis parti de la thèse ou de l'hypothèse suivante. Je suis parti de l'idée que la création artistique, appelons sa création si on voulait, l'œuvre d'un auteur, suppose une collaboration intime entre quelque chose, disons, entre guillemets, d'inconscient et, parfois, pour les grandes œuvres, les plus hautes qualités de l'esprit conscient. Et ce qu'on peut appeler l'inconscient, mot vague, mais enfin, ça a été rempli par des formules, moi je dis un état second, un état poétique, un état on disait l'inspiration, c'était pas si mauvais comme terme, et moi j'ai raccordé ça à quelque chose qui s'est manifesté dès l'aube de l'humanité dans le chamanisme, dans cet état second qui va jusqu'à la transe, qui va jusqu'à une sorte de voyance. Et bien entendu, nos artistes, nos auteurs ne sont pas des chamans littéralement, ce sont des héritiers et qui portent en eux quelque chose de, qui est un phénomène de demi-possession, de demi-transe, de demi... mais cette relation entre, disons, des forces obscures. D'ailleurs, je vous lirai tout à l'heure un très beau texte de Eisenstein. Je peux d'ailleurs vous le lire tout de suite, après tout. Ce texte d'Einstein. Voilà. dit. Donc, Einstein dit : l'art ne serait-il pas une régression artificielle dans le champ de la psychologie vers les formes de la pensée primitive ? Autrement dit, un phénomène identique à celui provoqué par n'importe quelle drogue, boisson alcoolique, magie, religion, etc. La réponse à cette question, la dialectique de l'œuvre d'art, est construite sur une très curieuse unité dualiste. En elle s'accomplit un procès dualiste, une impétueuse montée selon les niveaux les plus hauts de la conscience et la pénétration simultanée dans les couches les plus souterraines de la pensée sensorielle. Il dit ça avec son vocabulaire à lui, mais il exprime quelque chose que d'autres on peut dire aussi d'une façon. Alors ma thèse, c'est ça. Mais ma thèse est de dire aussi que celui qui ressent le sentiment esthétique, l'émotion esthétique, lui-même, il vit très intensément cette émotion, parfois même une participation au concert, au cinéma, au théâtre, dans le roman. Il a une conscience détachée. Il sait qu'il est spectateur. Vous avez beau pleurer, rire, sangloter au cinéma, vous savez, spectateur, vous avez donc une double conscience. Une conscience lucide et une conscience participative. Alors, on a rapproché, bien entendu, surtout la situation du spectateur du cinéma à une situation semi-hypnotique, d'autant plus qu'on éteint les lumières, qu'on est dans un fauteuil détendu, et que l'on va se laisser envoûter par les images. Seulement, même dans cette situation demi-hypnotique, vous êtes dans un état quand même d'excitation très forte, pas seulement émotionnelle, mais intellectuelle, quand vous suivez les épisodes qui concernent les héros auxquels vous identifiez. Donc, si vous voulez, il y a toujours un mixte, une situation très curieuse de double conscience, ou de deux éléments de l'esprit qui se trouvent unis alors qu'on les dissocie en général. Bon, ça c'est la thèse d'ensemble sur laquelle je reviendrai encore. Et j'étais, je crois qu'on a quitté, qu'on a la dernière séance, mais j'ai un trou peut-être, ma mémoire se faisait sur le cinéma. Peut-être que je vais vous répéter des choses. Et bon, disons que le cinéma, d'abord, c'est très intéressant. Il est devenu un art. Et je vais vous dire aussi que nous avons vu plus tard d'autres formes qui n'étaient pas du tout reconnues comme art devenir art. Et comment ça se fait? Parce que, prenons le cinéma, surtout à ses débuts, est considéré comme un divertissement populaire, parfois abétissant, aliénant. Et donc, le monde des artistes, des esthètes, des critiques d'art, des intellectuels, des universitaires, méprise le cinéma. Alors, c'est au cours des années 30 que commence à se créer, je dirais non pas une police, mais je dirais des critiques de films, c'est-à-dire des gens qui examinent les films comme des œuvres d'art. Alors, il y a eu, d'ailleurs, on fête actuellement, je crois, au cinéma des cinéastes, je crois qu'il y a une séance à l'honneur de Henri Janson, qui était non seulement un scénariste répété, mais qui était critique de cinéma dans Le Canard enchaîné de l'avant-guerre. Et il y a eu des histoires du cinéma, il y a eu Brasillac Bardèche, il y a eu Georges Sadoul, il y a eu des critiques, il y a eu les cahiers du cinéma. Avant de devenir auteur, Truffaut, Godard étaient des critiques. Donc, si vous voulez, pour que l'art soit reconnu, il faut d'abord qu'il y ait des exégètes qui l'examinent comme art. Et peut-être le plus grand de cela, après la Deuxième Guerre mondiale, fut André Bazin, qui lui-même était un éducateur populaire qui s'est formé par le cinéma et qui est l'auteur de textes très, très, très importants sur le cinéma. Alors, le cinéma, alors progressivement, on reconnaît que le cinéma est un art, mais dans cet art, on va d'abord privilégier certains auteurs et certains genres. Et puis, même des genres qui étaient considérés comme très vulgaires, comme le western, acquièrent une certaine dignité à partir non seulement du moment où des auteurs comme John Ford, Warhol, ce sont des auteurs de western, et John Ford qui ont un contenu humain très important, mais vous avez aussi des westerns où les archétypes se modifient et où le mauvais, qui était l'Indien, devient au contraire le héros et la victime. Et donc, les festivals jouent un très grand rôle pour l'esthétisation et le fait que quelque chose qui était considéré comme un divertissement se transforme, soit reconnu comme art. Bon. Et nous allons voir aussi dans d'autres domaines. Et on peut dire que le cinéma, qui se nourrit des nappes profondes de l'esprit humain, qui s'est nourri des romans populaires et des genres, a créé ces genres à lui, comme le western, comme les peplums, etc., se nourrit de mythes, et il transmute en surréalité le monde réel et en réalité le monde imaginaire. C'est comme le roman, mais avec la force, évidemment, de son caractère, de présence physique, audiovisuelle. Et il mobilise tous les arts. C'est ça qui est intéressant. C'est que non seulement il y a l'art de la musique qui intervient, évidemment, dans le film, il y a l'art du décorateur, il y a l'art du montage. On peut dire que ceux qui participent à l'élaboration d'un film sont des artisans, artistes, sont des gens le photographe, n'est-ce pas ? D'ailleurs, je vais venir à la photographie, joue un rôle très important dans l'esthétique du film. Donc, ça devient un art total, polymorphe, un peu comme le dit. Et je pense que la situation esthétique du cinéma est tout à fait exemplaire parce qu'elle est totalement accomplie. Je le répète parce que nous sommes dans une situation tranquille dans nos fauteuils et pourtant nous sourions, nous rions, nous jouissons, nous pleurons, nous avons peur, nous sommes identifiés, nous sommes émus. Et donc il y a quelque chose qui fait que tout en étant hyper présent, nous sommes affectivement, mais nous avons ce détachement. Vous savez que les tout premiers spectateurs du premier film des Frères Lumière, l'entrée d'un train en gare de la Ciotat, la caméra était sur le quai et filmait l'arrivée de la locomotive. Et quand la locomotive approchait, les spectateurs se sont levés et ont eu peur. C'est-à-dire qu'ils ont mis, ils n'avaient pas encore acquis la conscience que c'était des images. Mais là, maintenant, on vibre à des scènes absolument violentes et passionnantes, tout en étant très agité et en même temps très, très tranquille. Et je dirais que entre en jeu, dans cette situation de spectateur, ce que Aristote déjà appelait la mimésis, cette activité mimétique que René Girard a beaucoup utilisé, mais dans d'autres domaines, et qui se trouve en nous, et qu'on peut aussi, dont on peut donner une définition plus abstraite en disant c'est de la projection, identification, on s'identifie en héros, on se projette sur lui. Mais enfin, disons, cette mimésis est très active, et ce qui fait que justement, nous sommes, c'est pas du tout comme dans un rêve, parce que dans un rêve, nous sommes actifs, mais nous ne sommes pas éveillés, alors que là, nous sommes comme dans un rêve, mais tout en ayant excité, mais en ayant le sentiment de l'éveil, tout en ayant un sentiment. Dans le fond, on plonge un peu dans les complexités de l'esprit humain. Et alors, nous pensons que ce ne sont pas seulement les choses belles et plaisantes qui nous donnent notre émotion esthétique, mais aussi des cruautés, des meurtres, des douleurs. Et là aussi, je reviendrai encore, nous souffrons vraiment et en même temps nous éprouvons une satisfaisante émotion esthétique. C'est ça qui est très curieux dans l'être humain. Nous sommes comme désamorcés tout en éprouvant ces émotions les plus intenses. Bonheur, malheur, chagrin. Nous sommes dédoublés entre un jeu passif, esthète, et un jeu actif, identifié à l'action, aux acteurs, et puis emporté dans ce feu. Alors, la musique joue un rôle pour nous emporter dans l'émotion, puisque la musique va jouer un rôle affectif énorme. Alors, donc, le caractère profondément complexe du sentiment esthétique que révèle le cinéma, c'est une émotion qui peut être très profonde et un détachement pratique dont nous demeurons conscients sans arrêt. C'est l'émerveillement, l'enchantement qui peut accompagner les spectacles les plus douloureux et les plus cruels. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est que et plus intensément encore que le roman, et d'une autre façon que le théâtre, s'y s'impose à notre esprit, aussi bien le cinéma réaliste que le cinéma fantastique ou la littérature fantastique qui prend, si elle est réussie esthétiquement, artistiquement, qui prend réalité. C'est-à-dire, l'imaginaire sait se transformer en sentiment de réalité. Et je le répète, c'est un état de demi-possession. J'ai cité la dernière fois le Candomblé et les Orichas pour dire non pas c'est la même chose, mais pour faire comprendre ce phénomène, parce que ce qui a vécu un peu ces cérémonies voit très bien que les orishas, c'est-à-dire les génies, les dieux qui sont appelés dans la cérémonie, certains d'entre eux s'incarnent dans une personne. Et cette personne possédée par l'orisha va parler par la voix, c'est la voix de l'orisha qui va parler. Donc c'est à l'extrême, si vous voulez, le phénomène de possession par un esprit. Nous, au cinéma, on est à demi-possédé, on n'est pas totalement possédé de cette façon. Et du reste, dans le Candomblé, il y a le chant, il y a la danse, il y a la cérémonie, il y a la foi, la croyance, etc., qui va jouer un rôle. Alors, maintenant, bon, venons-en à la musique. Alors, la musique, il y a des... Lévi-Strauss a dit, c'est le mystère suprême des sciences de l'homme. C'est assez vrai. Et il disait aussi qu'elle exprime mieux que tout notre vie affective. Et là-dessus, je crois que c'est effectivement, c'est le langage le plus intime de tous qui parle à l'âme. Alors, l'âme, vous allez me dire, mais ça n'existe pas, l'âme. Oui, vous savez, l'âme, c'est comme l'esprit, vous pouvez dire, il n'y a que le cerveau. Mais là aussi, dans la conception complexe de l'être humain, on peut dire que le cerveau humain, une fois qu'il est en relation avec une culture et qu'il est maître d'un langage, qu'il peut parler, etc., ce qui se développe à travers le langage, quelque chose en lui qu'on appelle l'esprit. On peut dire l'esprit est une émergence du cerveau. L'esprit n'existe pas en dehors du cerveau. L'activité cérébrale fait émerger l'esprit. Et on peut dire que l'âme, c'est la partie sensible, affective de l'esprit. L'esprit, c'est la partie émergente intellectuelle. L'âme, c'est la partie émergente sensible. Je ne sais plus qui a dit, tous les animaux ont une âme, et également quelques êtres humains en ont une. Mais ce que c'est certain, c'est qu'il y a des réalités qui sont émergentes, c'est-à-dire qui, dans certaines conditions, apparaissent et deviennent réelles. C'est exactement comme la vie. La vie, en soi, elle n'existe pas. Elle n'est pas dans les molécules qui constituent la vie. La vie, c'est ce qui émerge de l'organisation complexe de ces molécules physico-chimiques. Donc, la conception de l'émergence doit nous dire que moi, je parle de l'âme sans penser du tout que l'âme est immortelle. La pauvre, je crois qu'elle est mortelle. Maintenant, cela étant dit, c'est un... je crois que Lévi-Strauss a dit aussi cette chose. La fête, la jubilation, la supplication, l'indicible, l'amour trouvent en elle une expression qu'il ne saurait trouver ailleurs. Et alors, c'est extraordinaire, puisque c'est un langage tellement intime qui, en même temps, n'a pas de parole, qui nous parle sans parole. Et dès que nous voulons commencer à le traduire en parole, nous l'appauvrissons, nous le réduisons à quelque chose d'assez plat. Alors, que je vous ai dit, je crois, la dernière fois, je me suis livré à une confidence pour vous dire que j'ai rencontré à l'âge de 15 ou 16 ans, enfin, un état de possession, je dirais, proche de l'extase, quand j'ai écouté, quand m'a été révélé le premier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, et je pense que chaque moment, encore récemment dans la maison, il retransmettait la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, qui avait été enregistrée à Palerme par Abbado, enfin, une exécution tellement magistrale, tellement belle, tellement totale, que non seulement moi, téléspectateur, mais j'ai vu les spectateurs eux-mêmes être absolument transportés. Je ne sais pas, parce que j'ai des trous de mémoire, si je vous ai dit la dernière fois, si je vous ai parlé de cet orchestre des enfants, des jeunes gens, je n'ai parlé, oui, voilà. Bon, qui a provoqué quelque chose de fabuleux, de aussi besoin d'extase, aussi bien chez le chef d'orchestre, chez les spectateurs, et tout. Bon, donc, vous voyez que c'est très, très, très étonnant. Et la musique, peut-être indicible parce que n'est pas traduite en mots, mais elle peut s'accompagner de paroles qui sont poésie, qui sont poétiques. Et ce qui est merveilleux, c'est que la musique et la poésie se combinent et s'entrefortifient et fortifient l'émotion que chacune donne. Je pense à des lieds de Schubert, des lieds de Schumann, je pense à des chants d'opéra, je pense même à des très belles chansons. Et alors, si vous voulez, la musique contamine les paroles encore, leur donne encore plus de poésie grâce à son pouvoir affectif, et alors les paroles donnent à la musique un sens explicite qui porte sa poésie propre. Les deux poésies s'entre-imbibent, donc il y a un excellent commerce entre la musique et la poésie, étant donné que la poésie elle-même abandonne le langage dénotatif, qui nomme les choses directement, selon leur définition du dictionnaire, pour un langage connotatif ou analogique, qui à ce moment-là fait jaillir des sens sous-entendus, des jeux entre les mots. Alors, donc, on voit très bien que la poésie elle-même a sa magie propre, qu'elle communique à la musique, etc. Et dans certains cas même, la musique poétise à la prose. Enfin, par exemple, je pense à cet opéra de Charpentier, Louise, qui est un opéra, disons, populiste, comme on disait, c'est-à-dire qui, au lieu de présenter des personnages normaux d'opéra, présenter des gens de la vie quotidienne, de simples gens, etc., la musique peut poétiser le banal, peut le transfigurer. Il y a des chansons, alors là, dans la chanson aussi bien traînée, Prévert et Cosma, Brel, Brassens, on voit très bien là aussi cette chose. Et alors, il y a le phénomène de magie, parce que une fois qu'on est pris par une chanson, pendant longtemps, on ne peut pas s'en débarrasser. Son air vous trotte dans la tête, vous voulez le réentendre sans arrêt, vous êtes dans un état total de fascination, d'envoûtement pendant le temps que finalement ça s'atténue, et encore, ça s'atténue, et puis ça revient. Bon. Alors, je vous ai parlé, je crois de l'adagio du second mouvement du quintet de Schubert, je sais plus très bien, mais enfin écoutez, si je me répète, ne m'en voulez pas trop, parce que moi je crois que c'est Schubert qui a été très 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 malheureux, a exprimé son malheur et sa douleur dans ce second mouvement de quintet. Je crois que c'est une des œuvres les plus douloureuses de la musique mondiale, enfin, au moins occidentale, etc. Enfin, du moins, c'est adagio. Et donc, cette expression nous transmet cette douleur en nous donnant en même temps un bonheur esthétique, c'est-à-dire le bonheur esthétique n'annule pas la douleur, et la douleur n'annule pas le bonheur esthétique. Prenez par exemple des amateurs d'opéra, connaissent la Tosca et connaissent donc l'air de Mario Garavados qui est condamné à mort, chante en disant « Je n'ai jamais autant aimé la vie » au moment où il va mourir. C'est aussi une des choses les plus bouleversantes qui soient. Ou bien le chant d'attente de Madame Butterfly qui espère le retour de Pinkerton et qui s'imagine qu'il va débarquer, qu'il va arriver, etc. C'est des choses. Nous pleurons, je pleure. Et en même temps, j'en suis très heureux. Et je ne demande qu'à réécouter ces choses-là. Alors, voilà, c'est ça le problème, la réalité, et qui nécessite un petit peu de complexité, c'est-à-dire de savoir qu'il faut unir des notions que nous n'avons pour habitude de séparer les unes des autres, alors qu'il faut les unir ensemble si on veut comprendre quelque chose. Et d'ailleurs, alors aussi une chose très intéressante dans la musique, du moins la musique classique, c'est un art d'une extrême précision dans la notation qui est faite justement dans la partition, qui est extrêmement précise. Mais en même temps, c'est un mélange de précision et d'imprécision, parce que les indications générales sont assez floues. Allegro vivace, lento, ce sont des indications psychologiques qui donnent une liberté d'interprétation au chef d'orchestre. Et d'ailleurs, nous savons qu'il y a plusieurs interprétations d'une même œuvre, étant donné ce mélange de flou et de précision. Et ce qui est très beau, c'est que dans le fond, c'est comment, là aussi, je reviens à une idée importante que je vous ai dit la dernière fois, c'est que une œuvre n'est pas seulement le produit d'un auteur, une œuvre s'engendre d'elle-même, nourrie par l'auteur. Et je vous l'ai dit pour le roman, où souvent l'auteur a l'impression que ses personnages lui échappent, lui demandent des choses. Moi-même, j'ai eu cette impression en écrivant un ouvrage important pour moi. Et il y a quand vous écoutez une sonate ou une symphonie, vous avez cette impression de ce mouvement avec ses recommencements, avec d'auto-engendrement que c'est elle-même qui se... voilà. Et donc, recommencement, transformation, comme la vie. Il y a quelque chose dans cette musique qui est extraordinaire. Alors, maintenant, quittons la musique classique, quittons la chanson, mais rappelons que le caractère extrêmement émotionnel que nous procurent les hymnes, l'hymne national, les hymnes, les chants patriotiques, surtout si on est très patriote, et quand on est révolutionnaire, quand on fut révolutionnaire, puisque ça n'existe plus, eh bien, les chants révolutionnaires qui avaient quelque chose de transportant, de messianique. Donc, si vous voulez, là aussi, nous sommes non seulement dans un état second, et dans cet état second, nous sommes intégrés dans une communauté. Quand il y a l'hymne national, nous nous sentons profondément intégrés dans la communauté française. Quand il y a le chant révolutionnaire, nous nous sentons intégrés au mouvement révolutionnaire auquel nous souhaitons la victoire. Donc, c'est là aussi, nous nous rendons compte que il y a l'esthétique, l'art, etc., peuvent bénéficier de conditions sociologiques, des conditions cérémonielles, des conditions communautaires, etc. Et la Marseillaise, c'est un hymne qui nous fait participer à quelque chose, mais en même temps, c'est une œuvre esthétique, c'est une œuvre qui a sa musique et sa combinaison de paroles. Et d'ailleurs, quand on veut la regarder d'un regard froid, comme c'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, où des gens viennent aviser, on dit mais ce sont des paroles affreuses, marchons, qu'un sang, qu'un pur abreuve nos sillons, mais c'est pas ça, on n'est pas sanguinaire, etc. Mais en réalité, bien sûr, c'était des paroles d'un hymne de combat. La révolution assiégée et qui, dans le fond, appelait à la lutte la plus totale. Mais cette ère de la Marseillaise, c'est pas littéralement qu'il faut le prendre, sauf, je pense, certaines paroles des couplets. Il faut la prendre dans la mesure où elle nous fait revivre les conditions de la naissance difficile, de l'accouchement, de la République, la Première République. C'est ça qui nous a... C'est cette intégration dans la nation qui est le côté important. Alors, cela étant dit, je veux parler maintenant des nouveaux arts ou des arts qu'on considère maintenant de façon artistique. Alors, je vous dis un peu le processus pour le cinéma. Il s'est répété. C'est d'abord qu'il y a se crée, si vous voulez, une critique esthétique, artistique. Il y a des festivals. On reconnaît les auteurs. Et, en plus, on crée des écoles ou des instituts pour apprendre cet art, comme il y a l'IDEC pour apprendre l'art du cinéma. Bon. Alors, ça s'est passé pour la bande dessinée. J'en ai parlé peut-être, non ? La bande dessinée, je sais pas. Bon. Moi, je me rappelle que il y a très longtemps, au début des années 60, il y a plus de 50 ans, j'ai fait partie d'un club des bandes dessinées qui était animé par un garçon qui s'appelait Francis Lacassin et où participaient Alain Resnais, Chris Barker, Alain Robbe-Grillet, des films sérieux, etc. Et le fait qu'on avait fait ce club de bandes dessinées a été jugé comme un acte de snobisme prétentieux. Il y a eu un article absolument incendiaire contre nous dans les temps modernes, parce que on en fut dénoncé comme mystificateur ou comme snob, etc. Mais c'est vrai qu'on avait gardé de notre enfance un sentiment de jouissance, d'esthétique, du fond. Alors chacun pour sa génération. Moi, ma génération, c'était celle des pieds nickelés, qui reste à mon avis un petit chef-d'œuvre. Mais enfin, il y a eu la génération des Tintins, la génération d'Astérix, il y a eu tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après Tintin et après Astérix, il y a eu une prolifération d'un art, de la bande dessinée extraordinaire, parce qu'il comporte des plans, comme le cinéma, si vous voulez, des gros plans, des plans rapprochés, des plans obliques, etc. C'est un art véritable, je crois, avec des auteurs tout à fait remarquables. Et voilà comment la bande dessinée, aujourd'hui, est reconnue comme art. Elle a son festival, elle a sa critique, etc. La photo. Alors là, c'est assez curieux, puisque la photo était considérée comme une chose pour les... un art moyen, comme disait Bourdieu, classe moyenne. C'était pas digne de la vraie et la grande esthétique. C'était fait pour les touristes japonais qui vont faire clic-clac, pour les gens qui partent en vacances, qui veulent avoir des beaux souvenirs de vacances, ou filmer... se filmer en maillot de bain. Là. Bon. Or, pourtant, il y avait déjà des photographes intéressants comme Robert Doisneau, etc. Mais là aussi, l'art de la photo a été reconnu à ses festivals, à ses critiques, à ses galeries qui présentent des photos. Il y a les grands auteurs qui font des photos. Baudrillard, Jean Baudrillard, a fait des photos très intéressantes. Autrement dit, la photo est reconnue maintenant comme un art important. Il y a, je dirais, une dignification esthétique un peu très généralisée. Il y a des clips qui sont... Il y en a beaucoup qui sont nuls, mais il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Le rap, qui semblait être quelque chose de très vulgaire, qui était beaucoup du rabâchage répétitif, lui-même est reconnu comme un art. C'est-à-dire, nous sommes, je le répète, dans une époque d'esthétisation et extraordinaire, et aussi, alors là, je n'ai pas le temps de développer, mais beaucoup, disons, nous avons une tendance à esthétiser un passé, pas seulement le passé ancien, comme les péplums romains, comme le... Non, un passé relativement récent. Il y a eu l'esthétisation de l'art décoratif, l'esthétisation des anciennes stations de métro, des fontaines Vallas, l'esthétisation des locomotives à vapeur, qui était très méritée, parce que plus elles étaient puissantes, plus c'était des objets fabuleux qui crachaient de la fumée, qui avaient un rythme extraordinaire. Enfin, bon, il y a... Et puis vous avez évidemment cette esthétisation de la voiture, de l'automobile, et que les constructeurs essayent de stimuler en renouvelant de temps en temps les formes ou en ajoutant quelques gadgets pour la rendre plus jolie. Ou bien alors, l'esthétisation de la voiture, si vous regardez attentivement les publicités abondantes sur la voiture qu'il y a à la télévision, vous voyez que ce qui est esthétisé, c'est pas seulement la forme de la voiture, c'est pas seulement la vélocité avec laquelle elle roule. Ce qui est esthétisé, c'est le plaisir qu'ont les gens dans la voiture de conduire. Vous voyez une jolie fille, un beau gosse comme ça, qui se sourit, etc. Parfois, ils ont un gosse avec eux. Enfin, on esthétise du même coup la voiture, le décor, le plaisir de rouler, les gens. Donc, bien entendu, quand je parle, c'est comme tous les arts, c'est comme au cinéma, c'est comme en littérature, c'est comme surtout, et surtout dans les publicités de télévision ou d'entractes de cinéma, vous avez un grand nombre d'œuvres qui sont esthétiquement nulles. Il faut le reconnaître. Mais on voit qu'il y a la possibilité, et parfois, il y a là, et que même, disons, ces publicités quelconques sur les voitures, Volkswagen, autres, Fiat, japonaises, tout ça, ça nous donne de la mini-esthétique, des petits plaisirs esthétiques. On voit une forme roulée à toute vitesse sur une jolie route avec un beau paysage, des gens contents à l'intérieur, etc. Donc, voilà, il y a beaucoup d'esthétisation. Alors, encore pour terminer cette partie-là, avant d'arriver à quelque chose de plus important, deux mots sur l'artisanat. Parce que l'artisanat a toujours été quelque chose qui conjugue l'esthétique et l'utilitaire. Hein, la poterie, les fauteuils, enfin, etc. Vous avez, autrement dit, dans le mot artisanat, il y a de l'art. Et on peut dire que chaque fois qu'il y a du travail à la main, il y a de l'art d'une façon ou d'une autre. Et que beaucoup de nos objets ont un double aspect pratique et esthétique. Donc, il y aurait à développer ce que je ne... Maintenant, je peux m'arrêter dans cette énumération. Il y aurait pas mal à développer donc, sur l'esthétique dans notre civilisation. Mais je m'arrête. Il y aura peut-être des questions. Ce que, moi, je crois, c'est que j'arrive maintenant... Conclusion. Bon, d'abord, je répète ce que j'ai dit sur la créativité. Bien entendu, il y a toujours des conditions extérieures qui la stimulent. Bien entendu, on peut dire qu'une création peut utiliser le hasard et souvent peut répondre à un défi que l'auteur se donne à lui-même, mais elle est toujours la conjugation d'une activité post-chamanistique ou semi-chamaniste et d'une activité consciente qui corrige, qui contrôle et qui améliore. Et donc, et quant à l'émotion esthétique, c'est toujours, elle nous met toujours dans un état second, parfois que nous ne percevons même pas, mais qui est présent en nous. Et cet état second peut se développer en envoûtement, en demi-possession, en demi-transe, et peut-être en presque, au sommet, extase. Voilà. Et, mais en même temps. Et moi, je vous dirais tout à l'heure que les grandes œuvres, et non seulement une conscience très haute dans le travail où elle a collaboré, mais elles ont une pensée. Bon. Alors, maintenant, mes conclusions, c'est quoi ? C'est le rôle de l'art et de l'esthétique dans la culture. Hein ? Puisque, dans le fond, il y a un sens du mot culture. Vous savez, le mot culture est un véritable caméléon conceptuel. Il y a la culture au sens la haute culture, les belles lettres, la littérature, Shakespeare. Il y a un sens ethnographique. On dit la culture, c'est la culture d'un peuple. Ce sont ses rites, ses coutumes, ses croyances. Et puis il y a un sens anthropologique. C'est la culture, c'est tout ce qui est appris, tout ce qu'on doit apprendre. C'est le langage, c'est la musique, c'est tout ça. Bon. Alors disons, c'est vrai qu'on retrouve l'esthétique dans toutes ces définitions de la culture. Elle est présente anthropologiquement, parfois évidemment imbibée de magie, de religion, de croyance, etc. Elle est présente. Elle est présente aussi dans ce qu'on appelle la culture populaire, dans les plaisirs et les divertissements populaires. Et elle est présente, bien entendu, dans la haute culture. Bon. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les œuvres d'art ont un caractère cognitif. J'ai une très jolie phrase de Franz Liszt qui dit « Les arts sont le plus sûr moyen de se dérober au monde, ils sont aussi le plus sûr moyen de s'unir avec lui. » Et alors, c'est ça aussi qui est paradoxal. On s'évade de la vie et on apprend la vie. Moi, ça a été mon cas, par exemple. Quand j'étais 10, 11, 12 ans, j'étais solitaire, j'étais orphelin. Pour moi, mon chez-moi, c'était le cinéma. Eh bien, au cinéma, je me suis évadé de la vie et j'ai en même temps commencé à apprendre la vie. Autrement dit, j'ai appris la vie en la fuyant dans les livres, dans les films, dans Tolstoï, dans Balzac, dans Dostoïevski, dans les films de Pabst, de René Clair, de... Bon, voilà. Et il y a une chose d'ailleurs que... il y a une phrase très belle d'Ernesto Sabato qui a cité Milan Kundera dans Le Rideau. Sabato dit... dans notre époque où tout est morcelé, où les connaissances sont spécialisées, le roman est le seul observatoire d'où l'on peut essayer d'embrasser la vie dans sa totalité. Et dans sa totalité, il ne veut pas dire tous les événements de la vie, non. Il veut dire que, aussi bien du point de vue des émotions, du point de vue de la vie, des sentiments, du point de vue des activités, du point de vue des événements, etc. Il est évident que les romans ont un rôle, ce sont des éléments de connaissance. Romans, cinéma, théâtre, physique. Ce ne sont pas seulement des choses qui nous donnent l'émotion esthétique, c'est à travers l'émotion esthétique nous découvrons, nous apprenons à connaître le monde et notamment le monde humain. Et ce qui manque dans les sciences humaines, c'est la connaissance de ce qu'il y a de subjectif chez les êtres dans ses relations avec les autres, avec leur environnement, sa complexité humaine. Et ça, vous l'avez dans le roman, Vous l'avez chez Balzac, vous l'avez chez Dostoïevski, vous l'avez chez Proust, vous l'avez chez d'autres encore. Donc, vous voyez que c'est... Donc, je dirais, littérature, cinéma, théâtre sont plus riches que les sciences humaines pour connaître l'humain. Mais bien entendu, les sciences humaines sont utiles parce qu'elles nous font connaître l'histoire de l'humanité, l'anthropologie des autres civilisations, etc. Remarquez qu'aujourd'hui, par le film et par le roman, on peut commencer à connaître les autres civilisations. Bon, voilà. Alors, il y a du reste. On peut comprendre ce rôle cognitif à partir dès maintenant des travaux d'Antonio Damasio et de Jean-Didier Vincent, spécialistes de l'imagerie cérébrale, qui nous ont dit que l'émotion joue un rôle actif dans la connaissance. La connaissance purement glacée n'aboutit à rien. On ne peut apprendre qu'en ayant le plaisir, le goût, l'émotion. Et dans le fond, un bon professeur est quelqu'un qui donne le plaisir d'apprendre, qui donne des émotions positives. Mais on peut dire que le caractère profondément affectif de tout ce qui est esthétique nous donne, est très utile pour la... C'était Hegel qui disait, à sa façon, à lui, avec son, l'art porte à la conscience la vérité sous le mode de la figuration sensible. Hein, c'est quand même pas mal, c'est qu'à travers cette sensibilité, quelque chose de vrai, de profond, y pénètre. Et il y a cette phrase d'Eisenstein que je vous ai citée. Dans le fond, un roman porte sur les multiples faces sous lesquelles les humains vivent leurs relations, leurs conflits, leur vie privée. Et voilà. Et ces aspects existentiels, subjectifs, je le répète, absents des sciences, invisibles dans les sciences humaines, et parfois même que parfois il y a un univers dans chaque personne, comme on le voit dans Faulkner, ou bien qu'on voit cette pluralité, cette instabilité chez nous, comme dans les romans de Dostoïevski. On voit que, si vous voulez, que Homo sapiens, c'est en même temps Homo demens, on voit que les individus singuliers portent en eux quelque chose d'universel. On voit la condition humaine dans les destins singuliers et que les grandes œuvres englobent énormément de pensées. Alors, je veux signaler que c'est au 19e siècle qu'à l'opposé d'un monde qui a été de plus en plus dominé par l'argent, par la technique, par l'esprit de conquête, de possession du monde, disons, l'homme maître et possesseur de la nature, la colonisation, l'essor économique, etc. C'est à ce moment-là où l'esprit, à l'opposé de ce monde de plus en plus économiste, technique, prosaïque, se sont levés des poètes adolescents et des femmes poètes qui assume les tourments et les aspirations de l'être humain. C'est Shelley, c'est Keats, c'est Novalis, c'est Hölderlin, c'est Nerval, c'est Rimbaud. Et c'est-à-dire Rimbaud qui exprime les aspirations infinies de l'adolescence et en même temps que ses révoltes. Et c'est pas seulement ces génies adolescents qui apparaissent, c'est aussi que des artistes vieillissants se libèrent des conventions auxquelles ils obéissaient encore plus ou moins dans leurs œuvres de maturité, et dans leurs œuvres finales, ils se libèrent, c'est exactement le cas de la peinture de Turner, des derniers quatuors de Beethoven ou des dernières œuvres de Monet. C'est-à-dire, en même temps que Rimbaud nous livre les secrets d'adolescence, Beethoven et Turner révèlent les secrets de la maturité. Mais ce que je voudrais dire encore avant de terminer, j'ai encore 5 minutes, même je vais prendre 7 minutes, enfin, c'est que il y a une pensée, et je vais donner l'exemple je voulais peut-être donner, mais je le redis, de la chapelle Sixtine. Je voulais donner la dernière fois, non ? Je sais pas, pas de souvenir. Bon. Alors, dans le moment où le Créateur, le Dieu Créateur, tend la main pour rencontrer la main d'Adam, lequel a les yeux ouverts, mais n'a pas encore la vie, n'a pas encore le souffle de vie, tend la main qui va donner le souffle de vie à Adam, on voit que donc le Dieu Créateur qui est sur un nuage n'est pas seulement entouré d'angelots, mais il tient par l'épaule une créature féminine qui n'est pas un ange, c'est-à-dire que Michel-Ange a voulu dire que sans le principe féminin, il ne peut pas y avoir de création humaine. Et donc, et d'ailleurs, Beethoven, dans son dernier quatuor, il l'a écrit, parce que c'est ce qu'il voulait exprimer, il a dit « Mus est sein ». Est-ce que c'est possible ? Oui, cela est possible. Est-ce que... C'est-à-dire, la première question, c'est la révolte. Est-ce que ce monde est possible ? Est-ce qu'on peut accepter ce monde ? La réponse, oui. Oui, si on veut le changer, il faut l'accepter. Donc, on peut penser que il y a... Même dans des chansons, il y a cette chanson de Bob Dylan qui dit « Who is not busy burning is busy dying ». Celui qui ne sait pas, qui ne s'occupe pas de naître, s'occupe uniquement de mourir. Il y a une philosophie dans toutes ces choses-là. Alors, je dirais que la culture nous ouvre à la compréhension, nous ouvre à l'admiration. Ce sont des qualités qui nous permettent de mieux vivre. Ce qui est certain, c'est que quand nous entendons une merveilleuse symphonie, nous sommes meilleurs, malheureusement, quand après nous l'oublions. Quand nous voyons un film, où nous voyons même des criminels comme le parrain, qui sont pas seulement criminels, qui ont des sentiments humains, nous sommes beaucoup plus ouverts, nous comprenons qu'ils sont aussi des êtres humains et pas seulement des criminels. Nous sommes sympathisants des prisonniers, des vagabonds, des exclus, alors que dans la vie quotidienne, on ne veut pas les voir, on les méprise. Alors, c'est donc ça qui est... Et quand on voit Shakespeare, on sent toute la complexité humaine. Donc, toutes ces œuvres-là nous rendent meilleurs, mais malheureusement, pendant le temps du spectacle ou de la lecture. Sauf si elles vous marquent pendant l'adolescence. C'est pour ça que ça serait très important de découvrir ses propres vérités pendant cette période entre 13 et 18 ans. Voilà. Et mais le grand problème, c'est nous nous éveillons à nous-mêmes par la compréhension d'autrui, même dans l'état de soi-disant hypnose du cinéma. Alors, comment faire durer l'acquis de cette compréhension ? Comment faire durer l'acquis poétique ? Comment satisfaire le besoin accru de poétisation de la vie dans une société où domine de plus en plus le calcul, la compartimentation, le profit, l'anonymisation, voilà. Alors que l'on sent à la voir la multiplication des festivals de musique, de chansons, de tous ordres, ce besoin de poésie, de vivre autrement. L'esthétique se nourrit d'imaginaire et nourrit d'imaginaire. Elle se nourrit de réel et nourrit le réel. Elle les enrichit l'un par l'autre, par ses enchantements. Et donc, c'est pour ça que quand on dit magie du verbe, envoûtement de la poésie, etc., ce sont des mots qui ne sont pas faux, parce qu'ils traduisent en effet cette réalité dont je vous ai parlé. Donc, si vous voulez, le sentiment esthétique est une manifestation contemplative ou admirative de l'expérience poétique. Là, je dirais, je reviens à un thème que j'ai développé ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a deux pôles dans la vie. La pôle prosaïque, où nous faisons des choses qui nous ennuient par nécessité, obligation, est le pôle de la poésie où nous nous dilatons dans la joie, dans la communion, dans l'amitié, dans la ferveur, dans le jeu. Dans la... Donc, si vous voulez, l'esthétique fait partie de cet univers de la vie poétique. Elle est nécessaire à la vie poétique. Elle est liée même à beaucoup d'expériences ludiques. On dit « Ah, un beau match. Oh, le beau goal qu'on vient de voir, notamment les goals qu'a marqué Ibrahimovic pour le Paris Saint-Germain lors du dernier match de la Coupe de France de football. Il y a des mouvements. On voit la beauté surgir, etc. D'ailleurs, je crois que c'est Schiller qui avait dit. Le jeu est une activité qui a sa fin dans le plaisir qu'on en éprouve et nulle part ailleurs, c'est-à-dire un plaisir esthétique. Donc, voilà, esthétique et ludique ont en commun d'être leur propre fin et on peut les utiliser à d'autres fins religieuses, politiques, sociologiques, etc. Bien entendu, l'art peut toujours s'insérer dans le sacré, dans le cérémoniel, et en même temps, il peut s'en dégager, il peut s'autonomiser. Donc, et d'ailleurs, là aussi, le sacré, bon, nous parlons du sacré toujours comme s'il s'agissait uniquement de religion révélée avec un Dieu qu'il faut absolument adorer. Mais c'est Pierre Francastel, qui était professeur d'esthétique, qui dit que l'expérience poétique comme l'expérience esthétique atteignent le sentiment du sacré dans l'apparent profane. La parole de Francastel, c'est « Le beau est un substitut du sacré ». C'est une phrase qui, à mon avis, va loin. Et moi, je dirais que le sublime de certaines œuvres atteint le sacré. Le sacré est quelque chose de sacré. Donc, si vous voulez... Le chamanisme est révélateur de beaucoup de réalités artistiques et c'est une forme éruptive. Et nous avons nos formes éruptives, les fêtes, avec les musiques, les drogues, des phénomènes de quasi-possession dans des concerts rock ou dans des rêves parties. Et alors, quand nous arrivons au stade de l'émotion esthétique suprême, nous participons de façon quasi-esthétique ou à demi-esthétique, disons, nous arrivons à cet état de dépassement de soi, dans l'exaltation de soi, ce qui est très, très extraordinaire. C'est Henri Brémond qui a noté la parenté entre les états mystiques et la contemplation esthétique. Donc, dernier mot, je dirais que les états seconds, semi-trans, semi-possession, semi ou quasi médium natique, émerveillement, jouissance, pré-extase, ces états seconds deviennent souverains au comble de l'émotion esthétique. Je dirais que la possession, la multipersonnalité, l'extase sont des formes intensifiées de phénomènes normaux et que la qualité de la vie, la qualité poétique de la vie est sinon normale, du moins normative, et nous pousse à la communion et à l'amour. Je termine par une phrase de Wordsworth qui dit « La poésie est le premier et le dernier des savoirs. » Voilà, merci.
Merci beaucoup, Edgar, pour cette très, très belle promenade dans les arts et dans le sens de l'esthétique. Donc, on a encore une vingtaine de minutes pour discuter ensemble. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, il y a un micro qui va circuler voilà, dans la salle. Une question là.
Bonsoir, je suis brésilien. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez sur la possibilité des éléments internes des œuvres plastiques c'est-à-dire sa pensée plastique, donner une connaissance particulière sur les phénomènes sociaux, surtout sur les rapports sociaux du pouvoir.
Alors, si je résume, donc c'est sur la possibilité des œuvres plastiques à donner une connaissance sur le pouvoir.
Oui, sur les rapports sociaux du pouvoir.
Sociaux du pouvoir.
Oui. Les éléments inter.
La possibilité des œuvres plastiques de donner une connaissance sur les rapports sociaux du pouvoir.
Écoutez, les problèmes du pouvoir sont amplement posés. Par exemple, dans Shakespeare, si vous voulez, les problèmes de cette soif de pouvoir. Je dirais même que dans le Boris Godounov d'après Pouchkine, musique de Moussorgski, Moussorgski a traduit la soif du pouvoir, l'ambition que d'habitude on pensait pouvoir traduire par les. Une musique très exaltée, très exaltante, très forte, par une sorte de mélodie, d'une douceur infinie. C'est un thème qui est comme une drogue, comme une volupté, etc. Et je pense que, dans le fond, la soif de pouvoir qui, en ce moment, agite tellement de candidats éventuels à la présidence de la République, c'est quelque chose qui est une poussée voluptueuse qui leur donne un délice. Et bien entendu, si une fois qu'ils ont le pouvoir, ils peuvent devenir autoritaires, intransigeants, brutaux, meurtriers. Donc, si vous voulez, le pouvoir, on peut en parler dans les traités sur la politique, mais je pense que c'est le théâtre, la littérature, le cinéma qui nous donne les exemples justement de l'envoûtement et de la transformation par le pouvoir. D'ailleurs, il y a deux types de transformation. Il y a le pouvoir qui transforme en despote affreux des personnages qui n'étaient pas au départ très vilains, et celui qui fait l'inverse. D'ailleurs, il y a deux œuvres qui donnent ce changement. Il y a d'abord le Cyna de Corneille, puisque, comme vous savez, Auguste, l'empereur, a démasqué le conspirateur Cyna qui projetait de le tuer. Et au lieu de le châtier, il lui offre sa clémence. Enfin, il résout le problème par la clémence. Et vous avez la deuxième œuvre, c'est l'Hernani de Victor Hugo, où Don Carlos, roi d'Espagne, devenu Charles Quint, pardonne à Hernani, conspirateur, qui voulait le tuer, pour manifester la magnanimité. La magnanimité est une possibilité du pouvoir. Donc, si vous voulez, moi, je pense que ces questions du pouvoir sont très, très éclairées. Déjà, vous l'avez dans la tragédie grecque. Vous avez donc, si vous voulez, l'art, notamment théâtre, cinéma, roman, nous éclaire là-dessus.
Bonjour. Justement, à ce propos-là, moi, je m'interroge vraiment sur le caractère éthique de l'art. J'ai l'impression que l'art, actuellement, en tout cas, justement, n'intègre pas assez des fins éthiques, et il a tendance à être un instrument de manipulation, je pense. Si on pense, je ne sais pas, à Miley Cyrus ou au mannequinat, les mannequins, justement, utilisent beaucoup l'éthique, mais finalement, ça dissimule justement une dimension assez tragique, je trouve.
Oui, ça, il est certain que les conditions de la création artistique, qui ont dépendu longtemps de mécénat ou de la protection de puissants, de seigneurs ou de papes, etc., dépendent de plus en plus du marché, et que là aussi, on est dans une époque, tout d'abord, comme vous savez, il y a la difficulté d'un jugement pertinent sur les œuvres qui rompent avec une tradition. Alors, vous avez eu d'ailleurs ce phénomène au 19e siècle où les impressionnistes ont été mal compris. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'ils soient intégrés dans les salons et reconnus dans l'esthétique. Et puis vous avez le cubisme, vous avez tout ça, ça a suivi. Et on est arrivé dans une époque où je vous signale un petit livre très intéressant de Harald Rosenberg qui s'appelle The Tradition of the New, la tradition du nouveau, où c'est d'ailleurs où, à la différence de ce qui se passait dans le 19e siècle, où ce qui était nouveau semblait louche, déviant, dissonant, etc., aujourd'hui, le nouveau est promu, on dit « Ah, voilà, c'est bien, c'est innovant. » C'est pas seulement pour l'innovation dans les entreprises, c'est l'innovation aussi dans tous les domaines. Et donc, finalement, il y a un culte du nouveau. Bon. Alors, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le temps nécessaire pour savoir si une œuvre est importante ou non, ce qui est... Alors, à l'époque... de la peinture figurative, par exemple, il y avait des moyens un peu adéquats pour pouvoir essayer de juger là où arrive l'art abstrait non figuratif. Ça devient plus difficile. Et finalement, on ne sait plus très bien si le fait qu'un tableau est payé très cher signifie qu'il est de très grande valeur. Ça, c'est une chose où on est chacun maintenant est réduit à choisir, à aimer ce qu'il aime et à ne pas tenir compte tellement de ce qu'il faut avoir. Il faut aimer, il faut à chacun de trouver son propre goût et son propre plaisir. Voilà, parce que on est dans un univers où effectivement il y a une très grande les forces du marché sont très importantes et très irrationnel.
Bonsoir, Monsieur Morin, je suis doctorant en anthropologie sociale et je voudrais vous poser une question à partir de votre expérience anthropologique. Nous pouvons voir la demi-possession dans l'anthropologie si nous pensons l'inspiration, l'intuition et la création comme en partie du travail de terrain, de l'appréhension et de l'écrit anthropologique. Merci.
Alors, c'est une question un peu complexe, j'essaie de la résumer. Donc, c'est sur le thème de la possession selon la perspective anthropologique. Donc, comment M. Morin verrait ce phénomène à la lumière d'outils conceptuels anthropologiques comme là, et là vous avez dit trois termes.
Composite.
Si nous pouvons voir la demi-possession oui. dans le travail anthropologique, oui. parce qu'il y a beaucoup d'inspiration, intuition D'accord. et création.
Donc oui. c'est sur le travail de l'anthropologue plutôt. Oui. D'accord. Oui. Voilà. Donc est-ce qu'on peut voir le travail de l'anthropologue comme un travail de demi-possession parce qu'il y a beaucoup d'identification, d'inspiration, d'incarnation aussi.
Ben écoutez, ça dépend de sa force, de son empathie pour ce dont il traite. Il est évident que dès que vous avez un phénomène d'empathie et de sympathie, vous êtes déjà dans un état semi-poétique, vous êtes dans un état pour simplifier, expliquer, vous pouvez expliquer une chose de façon... disons, rationnel, par les causes, vous pouvez... Mais comprendre nécessite toujours un acte d'empathie. Comprendre, c'est un peu... Si vous avez l'acte d'empathie, vous pouvez... Par exemple, tous les exemples que j'ai donnés au cinéma, nous comprenons de parrains ou d'autres personnages que nous ne comprenons pas dans la vie normale parce que nous avons cette empathie. Et donc, c'est ça qui est très important. Et d'ailleurs, je pense que tout travail sur une réalité humaine, qu'elle soit dans le passé, dans des populations qu'on appelle archaïques ou des populations actuelles, tout travail qui est dépourvu de cette empathie, il lui manque une dimension essentielle. Ça, je le crois.
Monsieur Morin, bonsoir. Et, par rapport à cette situation actuellement, n'est-ce pas, de l'acquisition de certains peuples aujourd'hui existants, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle les peuples originaires, autochtones ou autres, que grâce à des nouvelles constitutions, n'est-ce pas, arrivent à avoir une émancipation, une autonomie et des droits. D'autres se sont battus, se continuent à lutter, n'est-ce pas, comme le peuple de l'Arctique, du nord du Canada. Et aujourd'hui, comme je disais, aujourd'hui, ces peuples qui ont une certaine une nouvelle ouverture, n'est-ce pas? Ils ont une nouvelle ouverture parce qu'ils sont quand même arrivés à avoir leur territoire, à avoir aussi avoir de l'argent de leur pays. Et ils veulent aujourd'hui nous inviter. Qui, nous? Surtout pas les anthropologues. Ils veulent pas des anthropologues, ils veulent rencontrer des artistes contemporains, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il y a un débat précisément sur ni autochtone ni contemporain. Je ne sais pas comment vous verrez ça aujourd'hui. Est-ce que vous tenez compte, dans cette pensée globale, la voix de ces nouveaux sages? Il y a l'histoire du chamanisme, bien sûr, d'autres cosmogonies, mais il y a aussi beaucoup de savoir-faire, de savoir-penser, même à niveau politique, environnemental et autres. Donc,
alors, si je résume correctement, votre question est sur comment ces peuples qui n'accédaient pas forcément au domaine artistique reconnu avant par nos sciences, maintenant ont un rôle central dans notre manière d'aborder l'art. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres aspects que je n'ai pas entendu ou compris?
Ils sont arrivés aujourd'hui, je sais que certains sont au pouvoir, n'est-ce pas, pouvoir politique.
Oui.
Et donc, ils sont une présence dans laquelle aujourd'hui les intellectuels doivent, je ne sais pas, mais ce n'est pas avec un regard anthropologique.
Mais vous parlez des œuvres d'art produites par
tous les savoir-faire.
La culture, les formes culturelles.
Et les formes artistiques, voilà. Même, très fortes.
Donc, c'est par rapport aux formes artistiques culturelles produites par des peuples, des pays qui n'étaient pas forcément considérés avant et qui, grâce à des nouveaux droits, des ouvertures, arrive jusqu'à nous et comment les intellectuels doivent les prendre en compte.
Je pense que effectivement, nous sommes dans une époque qui permet de très grandes compréhensions et le paradoxe c'est que malgré cette possibilité de compréhension que nous donnent toutes les communications et puis les films qui nous arrivent de tous les pays, maintenant des Philippines, de Corée, de tout ça, en dépit de voir que ce sont de plus en plus les incompréhensions qui dominent et les fermetures et les occultations. Alors moi je crois qu'effectivement, nous sommes dans une époque où nous avons progressivement les difficultés à reconnaître la qualité. Prenez par exemple la musique arabe. Il y a encore 50 ans, ça semblait quelque chose de pas beau du tout, de pas intéressant, de tout là. Bon, il y a eu des stades intermédiaires. Il y a eu d'abord en France Enrico Macias, qui était de Pied-Noir, qui a introduit des rythmes orientaux arabes. Et puis, il y a une culture qui s'est élargie et des gens qui n'étaient pas du tout d'origine familiale arabe ont découvert des artistes, chanteurs comme Oum Kulsoum, Farid El Atrache, etc. Et aujourd'hui, en France, il y a un public qui n'est pas seulement d'origine maghrébine, mais pour cette musique, la chanteuse libanaise Firouz, etc. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a une possibilité d'ouverture de plus en plus grande. Ravi Shankar, cet artiste, a popularisé chez nous la musique indienne. Et puis, la musique japonaise qui nous semblait extrêmement monotone, une fois qu'on est entré dedans, moi je pense qu'il y a une possibilité d'ouverture et de goûter les différentes créations du monde. Il y a une richesse culturelle, artistique extraordinaire dans l'univers, et, y compris dans les petits peuples, et c'est le moment où nous pourrions vraiment en jouir vraiment. Merci.
Alors, dernière question. Dernière, assez courte, ça y est, synthétique.
Oui, d'accord, je vais être très court. C'est pour savoir si vous faisiez une différence entre l'art qu'on garde pour soi, un art égoïste, et puis quelque chose qu'on met directement en partage.
Écoutez, à mon avis, la plus grande jouissance est dans le partage. Parce que de jouer ensemble d'un beau concert, d'une belle œuvre, c'est un plaisir de garder pour... Alors, à mon avis, le caractère égoïste tue la qualité esthétique de l'émotion. Par exemple, je connais des gens qui ont des toiles de Degas qui sont dans leur coffre à la banque. C'est-à-dire, ce sont des toiles que personne ne voit, ni même eux-mêmes. Alors, ils ne jouissent même pas de cette œuvre-là. Je trouve que c'est une attitude démentielle. Voilà. Moi, je pense que l'art, nous en... D'ailleurs, on voit très bien que pourquoi on a plus de plaisir à voir un beau film dans une salle de cinéma plutôt que de le voir en solitaire à la télévision. C'est parce qu'il y a ce phénomène de communion. On rit ensemble, on pleure ensemble, on est aimé ensemble. On a besoin de... Le partage est une des grandes conditions de la plénitude, de la jouissance et de l'émotion esthétique. Voilà.
Merci beaucoup, Edgar Morin.